Merci d'écouter le studio Kalangu. Il est 18h. Tout de suite, le journal en français dans une présentation de Nafis Adam. Les titres de ce journal. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Madame Ben Saouda, est au Niger depuis hier sur invitation du président de l'Assemblée nationale du Niger. Ce matin, elle était devant les députés nationaux. Le chef de file de l'opposition nigérienne, Hama Amadou, a saisi la Cour de justice de la CEDEAO à suivre l'analyse d'un constitutionnaliste. Et puis en région, Agadez a célébré hier la fête de la Concorde. Plusieurs manifestations commémoratives ont marqué cette journée consacrée à la paix. Reportage dans un instant. Pour finir, nous parlerons en partie magazine de la rencontre à Maradi entre les chercheurs de l'Université de Maradi et d'Espagne sous les arbres fruitiers sauvages. Bonsoir à tous. La visite au Niger de Madame Ben Saouda, la procureure générale de la CPI, la Cour pénale internationale. Madame Ben Saouda a prononcé ce matin un discours devant l'Assemblée nationale, discours dans lequel elle a détaillé le fonctionnement de l'institution à laquelle elle appartient, puis répondant aux questions des parlementaires, elle a justifié son action. Ainsi, elle s'est défendue de recevoir des injonctions des chefs d'État occidentaux ou africains. Extrait de son intervention.
Je ne prends d'instructions de personne, d'aucun président, qu'il soit occidental ou africain. Je suis tout à mon travail. Un mandat m'a été confié et je m'applique à faire mon travail honnêtement, en toute indépendance et en toute impartialité. C'est vraiment une incompréhension de croire que n'importe quel groupe de personnes peut se réunir, aller voir un président et que ce président va dire à Ben Saouda qu'il faut arrêter telle procédure. C'est quelque chose qui ne peut arriver. Moi, je travaille sur la base de preuves et en accordance avec la loi. Et par la grâce de Dieu, c'est ce que je vais faire jusqu'à la fin de mon mandat.
C'était là un extrait de l'intervention de Madame Ben Saouda, la procureure générale de la Cour pénale internationale. Je l'annonçais dans les titres, immunité parlementaire violée, arrestation illégale, emprisonnement arbitraire, accusation imaginaire ou instruction à charge. Voilà les raisons avancées par le chef de file de l'opposition nigérienne, Hama Amadou, pour saisir la Cour de justice de la CEDEAO samedi dernier. La saisine de cette juridiction sous-régionale aura-t-elle un impact sur la procédure déjà engagée au Niger? Écoutons le constitutionnaliste Meïna Karté au micro de Habibou Garba.
Si le chef d'étude de l'opposition nigérienne, qui est déjà sous le coup d'une procédure au niveau national, a dû devoir saisir la Cour, c'est qu'il estime qu'il a des droits qui n'ont pas été respectés et que par conséquent, il doit frapper à la porte de la Cour de la CEDEAO. Donc, la Cour va amener tout cela et dire le droit.
Est-ce à dire que ça va changer quelque chose dans la procédure qui est déjà engagée contre lui?
Non, ça ne va pas changer quelque chose dans la mesure où la Cour elle-même, elle peut être saisie quand il y a un épuisement des voies du recours interne, tout comme elle peut être saisie avant même l'épuisement des voies de recours interne. Donc, elle va dire le droit, mais ça ne veut pas dire que ça efface toute la procédure engagée ici au Niger.
Autre aspect de cette édition, Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue Hausa au Cameroun, a été condamné hier 24 avril par le tribunal militaire de Yaoundé à une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 56 millions de francs CFA. Notre confrère est jugé coupable de non-dénonciation et blanchissement de produits d'un acte terroriste. L'organisation Reporters sans frontières, qui se bat pour la liberté de la presse, a fait part de sa désapprobation. Écoutons la réaction de Cléa Kensriber, responsable du bureau Africa RSF, joint au téléphone par Tarnal Foudaï Ahmed.
Cette condamnation nous a tous évidemment profondément choqués et indignés par sa sévérité et son manque de fondement. En plus de la sanction contre Ahmed Abba, c'est un message envoyé à l'ensemble des journalistes au Cameroun de se tenir à l'écart des sujets qui fâchent et notamment des questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Si la justice ensuite instrumentalise cette loi à défaut de preuves pour condamner des personnes qui sont innocentes. L'existence d'une telle loi au Niger, ça fait courir ce danger. Qui peut poursuivre, disons, souvent c'est le cas des personnes qui évoquent la question de terrorisme ou qui ont des informations sur le terrorisme qu'ils n'auraient pas partagées immédiatement avec les autorités, eh bien ça pénalise les journalistes.
Cléa Ken, responsable du bureau Africa RSF, et pour rappel, Ahmed Abba avait été arrêté en juillet 2015 à Maroua, dans l'extrême nord du Cameroun, une zone visée par les attaques de Boko Haram. En bref, depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état de la découverte d'un site aurifère dans la localité de Tassia, située entre le quartier aéroport et Malankwara. Joint au téléphone par le studio Kalangu, le directeur des mines de la région de Niamey, Massaoudou Saleï, a indiqué que ce matin même, il a conduit une équipe sur place pour un prélèvement d'échantillons à analyser. Autre aspect de cette édition, à l'instar des autres régions du Niger, Agadez a célébré hier la fête de la Concorde. C'est sous le site de la Flamme de Paix que se sont déroulées les manifestations commémoratives en présence des autorités administratives, coutumières militaires, des ex-combattants et des nombreux invités. Reportage de Moussa Maman.
Des chansons, des sketchs sur la paix joués par des élèves de primaire, telles sont des activités organisées hier par les autorités d'Agadez sur les sites historiques de la Flamme de la Paix entièrement réhabilités. Sadou Soleké, gouverneur d'Agadez.
Pour nous, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la concorde. Toute autre chose est oubliée à présent. Donc nous nous engageons dans le développement de notre région, dans le développement du pays. Je voudrais féliciter l'ensemble des populations d'Agadez qui prient et qui œuvrent activement pour pérenniser la paix et la concorde dans cette région et dans le Niger.
De son côté, la Ligue régionale d'athlétisme en collaboration avec la commune a organisé un cross populaire sur 6 km. 52 jeunes y ont participé dans un défi. Ahmed Toutane, secrétaire général de la Ligue d'athlétisme, est satisfait de l'organisation.
La course est bien passée. Les trois premières places seront récompensées et un prix d'encouragement pour les filles. Le premier, c'est 30 000. Le deuxième, c'est 20. Le troisième, à 10 000.
Autre moment fort de la soirée, la clôture du tournoi scolaire et une course de chevaux organisée par les sultans de l'Aï. Moussa Maman, depuis Agadez, pour les studios Kalangou.
De l'éducation dans cette édition, épilogue de la crise universitaire, débuté samedi dernier, le processus du paiement des bourses des étudiants nigériens se poursuit normalement à Niamey et à l'intérieur du pays. Pour ce qui est des allocations des élèves du secondaire, les autorisations de dépenses ont été envoyées. Le paiement devrait se faire dans les prochains jours. Information donnée par l'Union des scolaires du Niger. Écoutons Ousseini Amadou, chargé de la presse au comité directeur de l'USN.
Le samedi dernier, ça avait commencé avec les écoles professionnelles, notamment l'IAT. L'intégralité des étudiants de l'IAT ont été désintéressés. La mission qui devrait désintéresser les trois grandes universités qui sont à l'intérieur du pays, à savoir Maradi, Zender, Tawa, la mission a quitté aussi. Ils vont commencer le paiement incessamment cette journée même. Et aussi, un paiement est en train d'avoir lieu au niveau de l'ANAP. C'est les étudiants en droit. L'intégralité des étudiants qui sont en droit seront désintéressés aujourd'hui, Inch'Allah.
Quelles étaient les allocations des lycéens et collégiens?
Par rapport aux allocations, il y a les aides des nouveaux allocataires qui ont été envoyés dans toutes les régions. Maintenant, on attend les anciens. Il y a le ministre délégué au budget qui nous a promis aussi, d'ici la fin de la semaine, ils vont aussi envoyer les aides des anciens allocataires.
Des propos recueillis par Asmana China. Nous en avons parlé dans nos éditions de la semaine passée après l'inauguration officielle du château d'eau d'Arlita le 9 mars dernier par le Premier ministre Brigitte Raffini. La population de la cité minière est toujours confrontée aux problèmes de ravitaillement en eau potable. Selon le maire de la ville Mouli Abdrahman, une mise en demeure a été adressée à la SIN, la Société d'exploitation des eaux du Niger. Cette mise en demeure expire demain. À la veille de cette échéance, le maire lance un avertissement. On l'écoute.
Il y a encore des difficultés qui sont liées à la société qui n'arrive pas, depuis la mise en exploitation de ces châteaux-là, qui n'arrive pas à honorer les engagements dont elle a souscrit. Au moment où je vous parle, il y a une mise en demeure qui a été faite par l'ESPEN à l'endroit des Cines. Depuis l'inauguration le 9 mars 2017 par le Premier ministre, l'installation qui a été faite sous frais, c'est grâce seulement à nos multiples contacts, à nos déploiements, à nos appels incessants que nous arrivons à avoir quoi consommer. Le problème qui s'est posé, c'est à des niveaux. D'abord, les ressources humaines. Ensuite, la Chine doit assurer la sécurité des champs de captage. On a eu ras-le-bol, on a chaudement discuté. Déjà, ça nous donne une demande de mise en demeure qui exclure demain, c'est-à-dire passer demain, toutes les dispositions prévues par la loi seront appliquées à la société qui est en train de saboter, j'allais même dire, la mise en consommation de ces châteaux.
Toujours sur cette question, l'acteur de la société civile Ramara Elatoufette estime que la situation est toujours au statu quo et reste inquiétante.
Nous sommes toujours dans le statu quo. Rien n'a changé de situation par rapport à la semaine passée. Nous n'avons pas vu le résultat d'aucune disposition dont parle le maire ou la SEN. Aucun résultat. À l'heure où je vous parle, le robinet sont fait, il n'y a rien. Depuis 24 heures, en tout cas, il n'y avait pas de l'eau dans le robinet. Il n'y a rien qui a changé. Du point de vue pratique, le résultat est là. Il n'y a pas d'eau dans le robinet de population à arriver. Il est inconcevable quand même de construire un château jusqu'à sa finition. Son inauguration, à mon avis, donc, ce n'est pas en deux jours qu'on peut avoir l'espoir que ces gens-là vont résoudre le problème. Des agents qui vont surveiller les châteaux, qui vont faire alimenter les châteaux. Jusqu'à présent, il y a des quartiers à Arlit qui sont alimentés par des citernes.
Une page santé dans ce journal. Aujourd'hui, 25 avril, c'est la journée mondiale contre le paludisme. À la veille de cet événement, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un vaccin contre le paludisme à l'efficacité limitée serait testé à grande échelle en Afrique. Le Kenya, le Ghana et le Malawi participent à la phase pilote du projet. Nous en parlerons dans nos prochaines éditions. Santé toujours avec la méningite au Niger. À Filengue, plusieurs cas de méningite bactérienne ont été déclarés dans le district sanitaire selon les autorités sanitaires locales. Selon le médecin-chef du district, Abdourahmane Idrissa, pour l'heure, la situation est sous contrôle, mais par ailleurs, ils appellent la population à plus de vigilance.
Les cas sont plus éparpillés au niveau des CSI et à ce jour, nous avons enregistré 50 cas, dont 4 décès. Nous avons de plus de cas au niveau de l'hôpital. Bon, l'hôpital, c'est plus des références, les gens peuvent venir de partout, mais particulièrement, nous pouvons dire que c'est au niveau du CSI urbain. Là, on a enregistré 11 cas, dont un décès. À Damana, on a enregistré 8 cas, dont un décès, et nous avons également Gao qui a enregistré 7 cas. Après, nous avons Atalog qui a enregistré 6 cas. On remarque qu'il s'agit surtout de la tranche d'âge de 5 ans et plus qui est plus affectée par cette maladie. Dans le cadre de la prise en charge, nous avons bénéficié de médicaments et de matériel pour les prélèvements parce que chaque cas doit être prélevé et nous envoyons les prélèvements à Niamey pour Anna.
Présent, la partie magazine de cette édition sur le territoire du Niger pousse des arbres dont les fruits à fort potentiel nutritif sont négligés par les populations. Exemple du garbei en Zerma ou Adoua en Hausa, bien connu sur tout le territoire. Pour valoriser ces produits, un projet de recherche a été mis en place par des enseignants-chercheurs de l'Université de Maradi, associés à des collègues de Valladolid en Espagne. 2 ans de travail dont les premiers résultats ont fait l'objet d'une de travail ce matin au centre Godia de Maradi. Notre magazine d'aujourd'hui est consacré à cette richesse potentielle pour le pays. Écoutons le docteur Laouli Chitou, enseignant-chercheur à l'Université de Maradi.
Ce projet est né à partir des constats et des enquêtes de terrain auprès des producteurs sur comment valoriser les espèces ligneuses, les arbres qui produisent des fruits mais qui sont considérés comme des fruits sauvages. Et ces fruits-là sont aujourd'hui des denrées alimentaires d'importance capitale pour notre santé, d'importance capitale pour le bien-être familial et aussi d'importance capitale pour la création des revenus. Donc c'est comme ça que nous avons réfléchi et nous avons mis en place une collaboration avec les chercheurs de l'Université de Valladolid d'Espagne et qui nous accompagnent dans la mise en place de ce projet et la recherche de financement. Au cours de 2 ans d'activité, nous avons travaillé dans 4 communes du Niger, la commune d'Agué, la commune de Madarumfa, la commune de Simiri et Tamou dans la région de Tilabéri. Aujourd'hui, nous sommes à un atelier de partage de résultats. Et Dieu merci, les résultats auxquels on est parvenus sont très très satisfaisant en termes d'appui à la sécurité alimentaire, mais aussi en termes surtout de la création des revenus des producteurs.
Ce projet que vous avez mis en place, en quoi ça a permis aux populations d'avoir un plus?
Oui, effectivement, à partir de ce projet, nous avons fait un diagnostic participatif. Nous avons mené des enquêtes auprès des producteurs. Quelles sont les espèces qui existent dans leur zone et qui sont susceptibles aujourd'hui de générer des revenus ou bien d'être valorisées sur le plan alimentaire.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.